Mais d'abord, la revue de presse, évidemment, avec Karine Bécard.
Et on commence, Karine, avec ce malaise de plus en plus grand dans les équipes médicales au sein des clubs de foot.
Effectivement. Que se passe-t-il exactement? Eh bien, les médecins ne se sentent plus respectés. Leurs diagnostics, si vous préférez, ne sont plus toujours écoutés. C'est ce que je découvre à la lecture de l'équipe ce matin, avec des joueurs qui sont de plus en plus souvent priés de retourner sur le terrain sans être complètement soignés. En fait, les résultats, les performances, les enjeux financiers priment de plus en plus visiblement sur la santé des joueurs. Et c'est en train de devenir insupportable pour les médecins qui sont payés pour accompagner une équipe de football, dépassés désormais par les sports scientists, comme on dit en bon français, et par les préparateurs physiques. Bref, ils sont de plus en plus nombreux, les médecins, à préférer s'en aller. Et c'est d'ailleurs intéressant d'observer que ceux aujourd'hui qui sont recrutés le sont apparemment de plus en plus jeunes. Autrement dit, vous l'aurez compris, ils sont de moins en moins expérimentés et c'est encore plus dur pour eux de résister aux pressions, aux décisions, aux injonctions des clubs. C'est passionnant, vraiment, et c'est à lire, que l'on soit sportif ou pas, dans le journal L'Équipe de ce samedi.
Sinon, dans la presse ce matin, Karine, les agences Fitch et Moody's qui n'ont donc pas dégradé la note souveraine de la France.
C'est à la une, c'est vrai, mais de la presse numérique seulement, puisque les notes sont tombées assez tard hier soir, à la fermeture des marchés financiers. Le soulagement à Bercy, titre d'un commun accord, Le Figaro et Le Parisien ce matin. Mais plus intéressant peut-être ce pas de côté proposé ce week-end dans la revue L'Express, qui revient sur le duo plutôt curieux que forme le président Macron et son ministre de l'économie Bruno Le Maire. Un duo qui a maintenant 7 ans et dont on annonce la fin systématiquement à chaque remaniement. Ces dernières semaines, Bruno Le Maire a surjoué l'inquiétude sur l'état des finances de la France, rappelé à l'ordre pour cela par Emmanuel Macron. Depuis, on n'entend plus le ministre. Alors a-t-il eu peur d'être viré du gouvernement? Pas du tout, décortique le journaliste de l'Express, Paul Chollet, qui nous explique qu'avec ce second quinquennat, le président Macron n'a plus la même autorité, ce qui donnerait des ailes au ministre de l'économie qui devrait, dans les semaines qui viennent, continuer à se faire remarquer. C'est assez amusant et plutôt éclairant, vous verrez. Un mot de politique, toujours avec ce très long reportage, 18 pages, captivante, à la reconquête de l'électorat populaire. Comment aller chercher ces hommes et ces femmes qui ne croient plus dans la politique? C'est la question que se pose, à 6 semaines des élections européennes, La Croix, l'hebdo de ce week-end, qui a suivi pour cela, pour nous, pendant un an, 2 députés focalisés sur cet électorat populaire. François Ruffin d'un côté, Jean-Philippe Tanguy de l'autre, un insoumis, un Rassemblement national. Et il est sidérant de constater que les méthodes appliquées sont finalement les mêmes. Ils jouent la même proximité, ils affichent la même disponibilité, l'un devant une usine, l'autre au chevet d'une association qui s'oppose aux éoliennes. Voilà pour la forme, parce que sur le fond, en revanche, vous verrez, les mots sont différents. Le Rassemblement national surfe sur le ressentiment. François Ruffin s'y attaque, lui, systématiquement. Et puis dans la presse également ce matin, et rapidement, vous lirez ou pas l'interview de la présidente de Nestlé France, Muriel Lino, qui fait plutôt profil bas après la contamination de millions de bouteilles de Perrier. S'il faut prendre nos responsabilités devant la justice, on le fera, assure la patronne du groupe. C'est ce qu'elle dit, en tout cas ce matin, dans les colonnes du Parisien, aujourd'hui en France, sans totalement être convaincante. Ce qu'il est, par contre, beaucoup plus convaincant, c'est cette lutte à tous les niveaux contre la déperdition d'eau dans cette région si sèche qu'est le Roussillon. L'Indépendant de Perpignan nous raconte que désormais des chiens renifleurs sont dressés pour traquer la moindre fuite d'eau. Dès qu'elle est repérée, elle doit être réparée et ils sont formés pendant 4 ans, ces chiens, pour apprendre à repérer l'odeur du chlore. C'est à la fois incroyable et absolument captivant. Et c'est à lire, je le redis, dans l'Indépendant de Perpignan.
Et on termine, Karine, avec les confidences bouleversantes de l'actrice Juliette Binoche.
Oui, ce sont des confidences à ne pas manquer ce matin. Pour Libération, Juliette Binoche revient sur une partie de son long parcours, sur ses débuts en particulier, qu'elle revisite forcément à la lumière aujourd'hui de ce que l'on appelle la révolution MeToo. Cela donne trois pages tout à fait éclairantes dans lesquelles elle raconte toutes ces scènes de nus, tous ces rôles systématiquement sexualisés, toutes ces agressions aussi sur les tournages, des blessures, explique la comédienne, qui la mettent en rage, mais qui ne lui ont jamais donné envie d'arrêter ce métier. Et vous lirez une succession de moments gênants ou déplacés qui vont probablement vous bousculer, voire vous déranger. Trois pages de récit, parce que ce n'est pas une interview, c'est un récit écrit par la journaliste de Libé, Anne Diatkin, lu et, disons, peaufiné par Juliette Binoche. Durant ces trois pages, on la sent sur le fil du rasoir, prête à tomber. Mais non, son amour pour le cinéma est manifestement trop fort. Au fond, explique-t-elle, tout est pardonné, tout est transformé. Et elle reconnaît, avec ses mots très forts, tout au final, m'a sculpté.
Merci Karine et à demain.